Comores, Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur le média de l'océan Indien.
Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever. Allez, c'est parti pour la 20e émission de Ciné Forever, l'émission sur le cinéma sur mofm.com. Et aujourd'hui, nous avons un invité de classe. Mais avant, je vais vous présenter ma co-animatrice de l'émission. Vous la connaissez bien, elle était là la semaine dernière. Ça lui a tellement plu que je lui ai proposé de revenir. Et elle n'a pas hésité une seconde. Elle est là, Mikwan.
Bonsoir.
Voilà. Et l'invité de marque de cette émission, Stéphane Boué, comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, très bien.
Ça va ?
Ça va bien.
Voilà, tu vas nous parler de ta compagnie vidéo ô combien connue.
Mondialement connue.
Voilà, absolument. À travers l'espace, la galaxie, sur d'autres planètes aussi.
Voilà.
Alors, le chat qui fume ?
Le chat qui fume.
Voilà, nous allons passer de la musique, parler de l'actualité, et après on reviendra vers toi, mais tu vas participer avec nous dans l'actualité et donner ton avis ô combien important. Voilà, musique maestro. Voilà, Stéphane a choisi tous les morceaux musicaux de la soirée. Pourquoi Démon de Claudio Simonetti?
Le film est très fun, hein. C'est vraiment une belle rigolade, c'est de l'action, c'est du gore, le sujet est intéressant, en plus, l'espèce de projection de cinéma qui se transforme un peu en combat contre des démons, et puis la musique est juste géniale, quoi. Enfin, le film accumule quand même pas mal de scènes vraiment cultes, les démons dans le couloir avec les yeux qui sont luisants et tout, la fille à travers l'écran de cinéma et tout, donc c'est vraiment le haut du panier du cinéma bis italien de cette époque, hein, 85.
Et puis il y a la fille de Dario Argento, Fiore.
Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est le haut du panier, quoi.
Voilà. Et bon, le fiston, qu'est-ce que t'en penses de Monsieur Mario Bava, le fils de réalisateur?
Bon, on va dire que c'est son meilleur film, quand même.
Ah bon?
Pour moi, oui. Après ça, je sais que certains vont me dire que c'est Zedder ou... Non, Zedder, c'est pas lui, c'est Pipiavati, mais Macabre, Baiser Macabre.
Macabre, bien sûr. Et tu connais l'anecdote là-dessus, sur Baiser Macabre?
Non.
Eh ben, l'anecdote, c'est que son père, avant de mourir, il a vu le film, il a dit « Je peux mourir tranquillement ».
Non, c'est vrai.
Ouais. Ah, maintenant, il doit se retourner dans sa tombe.
Mais là, il doit dire ça après Démon, c'est pour ça. Non, mais Démon, ça reste vraiment...
Non, Démon, ça reste très sympa.
C'est très, très fun, quoi.
Voilà. Alors, nous allons commencer de l'actualité. Tu vas nous présenter toutes tes belles news, Mikwan, s'il te plaît.
Oui, alors nous commençons tout d'abord par un hommage à Bill Paxton. Bill Paxton, donc acteur américain, qui a notamment joué dans Apollo 13, Titanic ou encore Alien, nous a quittés à l'âge de 61 ans le 25 février. Il a tourné dans 84 films et séries en 42 ans de carrière. Né le 17 mai 1955, il était notamment connu pour sa collaboration avec le réalisateur James Cameron, qui lui a offert de nombreux seconds rôles. Tout le monde, bien sûr, se souvient de la scène d'ouverture mythique dans Terminator, où Arnold Schwarzenegger, nu comme un ver, va le dépouiller. Il a également joué un marine dans Alien, un arnaqueur trouillard dans True Lies, ou encore un chasseur de trésors dans Titanic. L'un de ses grands rôles restera également celui de l'astronaute Fred Hayes, l'un des héros d'Apollo 13 de Ron Howard. Bill Paxton a également incarné le personnage de Bill Hendrickson dans la série Big Love diffusée entre 2006 et 2011. Patrick, quelques précisions?
Il a surtout réalisé un film que moi personnellement j'adore qui s'appelle L'Emprise. Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as vu, L'Emprise?
J'ai vu, le sujet est toujours délicat. C'est vrai que,
On se posait beaucoup de questions sur ce film. Est-ce que cette personne qui a deux enfants va tuer des gens à travers une apparition divine, on va dire?
C'est un film qui est quand même très ambigu et la fin aussi est très ambiguë.
Voilà, on ne sait pas trop si c'est un psycho-killer ou si c'est un envoyé de Dieu,
voilà,
comme on dit.
C'est ça, voilà. Le film était quand même pas mal taxé de pro-catholique à l'époque et tout. Donc c'était un peu ambigu le film.
Voilà,
mais il est bien.
C'est ce qu'on aime. Moi, ce que j'aime dans les films, c'est qu'on se pose quand même pas mal de questions et c'est le cas. Alors on va commencer les news.
Alors, les films que nous attendons, nous commençons par Ghost in the Shell, réalisé par Rupert Sanders avec Scarlett Johansson, Takeshi Kitano et Juliette Binoche. Il s'agit d'une adaptation live du manga éponyme de Masamune Shirow. La sortie en France est prévue le 29 mars. La petite histoire. Dans un futur proche, le Major est unique en son genre. Humaine sauvée d'un terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d'un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu'elle s'apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu'on lui a menti. Sa vie n'a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l'arrêtera pour comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher de recommencer avec d'autres. Scarlett Johansson commence à être abonnée au super pouvoir.
Absolument.
Sébastien, tu aimes bien les adaptations de manga en film?
C'est Stéphane.
C'est pas
Sébastien.
Ah, Stéphane, pardon, Stéphane, pourquoi j'ai marqué Sébastien partout?
Alors, Steph, qu'est-ce que tu peux nous en dire? T'adores les transformations, je dirais, des mangas japonais en film américain?
Comme Dragon Ball et tout ça, c'est
ouais,
ça?
Ouais, tout ça, ouais. En particulier, mais il y en a d'autres, quand même.
Non, moi non, après ça, je pense que ça va se regarder, même Ghost in the Shell, bon, le manga est superbe, hein, mais ça va se regarder, enfin, je pense que c'est des films américains, on sait très bien que ça va être un peu transformé en n'importe quoi. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, moi je bouffe du cinéma, donc je...
Tu vois de tout quand même.
Voilà, je vois de tout, donc après ça, je suis là même. Je sais très bien que je ne vois pas un grand film, pas un chef-d'œuvre.
Voilà, de toute façon, voilà. On ira le voir comme bien d'autres.
Bien sûr, bien sûr.
Un film de distraction.
Exactement.
Avec une très jolie femme.
Ce qui ne gâche rien.
Absolument. C'est ça le cinéma.
C'est exactement ça.
Alors, on reste dans les super-héros. Le tournage de Deadpool 2 est imminent et la sortie est prévue en 2018. Il sera réalisé par David Leitch et sera toujours interprété par Ryan Reynolds. Alors, en fait, ils ont publié un court-métrage pour annoncer le film. Personnellement, j'avais déjà adoré le premier et les quelques images sont déjà un régal. En fait, on a Deadpool qui assiste au braquage d'un vieil homme dans une petite ruelle et là, il se transforme en super-héros. Mais en rentrant dans une cabine téléphonique pour réellement se changer. Donc pendant quelques minutes, il prend le temps de se changer et tout, c'est un vrai gag. Et enfin bref, c'est toujours plein d'humour et il y a même une petite blague à la fin du court-métrage que je vous invite à déchiffrer.
Voilà, c'est un hommage à Superman hein, dans la cabine téléphonique quand il se
voilà.
Change.
Voilà, exactement. Et pour ceux qui n'auraient pas la patience de déchiffrer la petite blague à la fin, eh bien la réponse elle est sur Allociné. Stéphane, est-ce que tu as vu le premier Deadpool ?
Oui, j'ai vu le premier Deadpool.
Et est-ce que tu as aimé alors ?
Alors, j'ai trouvé ça, mais trop con. Enfin, c'est trop con pour moi. Moi, j'aime les films cons, j'aime les films débiles, j'aime bien quand ça part vraiment très loin dans un délire. Mais là, j'ai trouvé ça trop. C'est-à-dire que c'était trop à base de pipi, caca, ma bite, mon anus, je pète, je rote, et j'ai fait non, mais là j'ai plus l'âge. Enfin, non, mais je comprends, je comprends qui il visait. Alors, j'ai vu la bande-annonce du numéro 2, et j'ai trouvé ça quand même. Un peu malsain sur la fin, le gars qui se repose sur le cadavre et tout ça, j'ai fait ça. Ok, donc maintenant ça va être quoi la prochaine fois? Il va coucher avec une morte et tout ça, j'ai trouvé ça un
peu. Ils vont faire quoi, nécromantique, c'est ça?
C'est un peu ça, j'ai l'impression qu'à la fin il se couche sur le cadavre du pauvre gars et je fais, quand même, ça fait marrer les gens, ça, c'est étonnant. Mais je le verrai de toute façon, parce que c'est toujours fun. Enfin, Deadpool, ça reste fun. Voilà.
En fait, il est très dans la provocation la plus totale, oui, en fait, ça, la plus ça, extrême
ça,
même. Et c'est ça qui
pour
en
ça,
fait.
Moi, je demande après ça qu'il couchait vraiment avec une morte et tout ça, un peu nécro. Voilà, c'est tout marrant.
Voilà, mais... allez voir sur internet et vous aurez la bande-annonce sans aucun problème.
Et c'est prévu pour quand
sorti en 2018. Là, ils vont commencer le tournage.
Par contre, le gag avec la cabine téléphonique est très 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 bon. Ouais. Avec le Superman, ça c'est vraiment excellent. Ça.
On le dit ou pas? Non, on laisse les gens voir.
Oui, on les laisse voir quand même la bande annonce. C'est quand même le but de l'émission de redonner l'intérêt de voir les choses.
Et dernière news que j'ai sélectionnée, Song to Song, un film de Terrence Malick, à qui l'on doit Les Moissons du Ciel, The Tree of Life ou Night of Cups, sorti prévu le 12 juillet. Dans cette histoire d'amour moderne qui se déroule au Texas sur la scène musicale d'Austin, deux couples, d'un côté Faye et le chanteur Bivy, interprété par Rooney Mara et Ryan Gosling, et de l'autre, un mania de l'industrie musicale et une serveuse qui l'entretient, interprétée par Michael Fassbender et Natalie Portman, sont en quête de succès dans cet univers rock'n'roll fait de séduction et de trahison. On y retrouvera également Cate Blanchett, Christian Bale et bien d'autres comme la française Bérénice Marlowe révélée lors du tournage de James Bond, Skyfall, dans son rôle de Séverine. À savoir que Terrence Malick coupe même les stars au montage, donc ce sera la grande surprise pour tout le monde, y compris les acteurs.
Et pour nous également.
Voilà.
Tout simplement. Alors, d'autres petites news ou ça suffira pour cette semaine? D'accord. Alors moi je vous en ai une ou deux petites news quand même, deux exactement. Après le 89e cérémonie des Oscars, Frida Pinto, actrice de Slumdog Million, et une association ont récupéré les restes du repas des invités des Oscars pour les redistribuer aux 1100 personnes qui sont démunies. Je trouve que c'est quand même une belle opération. Ouais, c'est vrai.
C'est marrant ça.
Et je trouve ça vraiment très bien vu le repas dantesque qu'il a dû avoir. Et il restait quand même beaucoup de choses. Et au lieu de les jeter, ils ont donné à des personnes qui en ont énormément besoin, beaucoup plus que les invités.
Ouais, c'est bien, ça.
Voilà. Ça, alors, la deuxième news, c'est concernant le boulevard du cinéma. Et puisque la quatrième émission va se tourner dimanche. Donc voilà. Bientôt, il y aura une émission spéciale pour les distributeurs de films. Donc pendant le Bloody Weekend, mon ami Jean-Paul viendra vous filmer et faire des interviews avec vous.
Ah, enfin.
Ne vous inquiétez pas, enfin. On vous oublie pas. Bah voilà, c'est dimanche après-midi, il y aura des petites surprises. Moi, je peux vous dire moi ce que je dirais, ce sera un texte sur Daria Nicolodi que j'ai eu la chance de connaître et voilà, vous aurez quelques anecdotes tout simplement. Voilà, nous continuons avec les sorties de cinéma de la semaine.
Alors, pour célébrer la journée de la femme, même si c'est tous les jours, hein, entre parenthèses.
Absolument.
N'est-ce pas, messieurs ? Les femmes sont mises à l'honneur dans le biopic « Les figures de l'ombre » de Theodore Melfi, avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Kevin Costner. L'histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, les cerveaux derrière le premier voyage spatial habité et réussi par les Américains en 1962. Ces trois Afro-Américaines travaillaient pour la NASA et ont permis à l'astronaute John Glenn de réaliser son premier vol en orbite. Pour ceux qui seraient intéressés, la société SpaceX propose un aller-retour pour Mars pour la modique somme de $500,000, soit plus de €377,000, pour des voyages touristiques vers Mars, possibles à partir de 2030.
Oula.
Stéphane, est-ce que c'est le genre d'aventure qui te tenterait de partir sur Mars, bien sûr, si ce n'était pas aussi cher ?
Alors, sur Mars, c'est un peu loin quand même, hein, mais en plus, on n'est pas sûr qu'on puisse y vivre très très longtemps, je crois. Parce que derrière,
t'es pas sûr de revenir.
Ouais, c'est bon, c'est voilà. La Lune, ouais, c'est là que ça va être super intéressant, c'est magnifique de partir sur la Lune.
C'est le rêve de tout le monde.
Ah, mais si j'avais l'argent, d'ici 2-3 mois, avec le chat qui fume, on sera riche, voilà. Et puis je pense qu'on pourra se payer un petit truc autour du monde, enfin, ouais, autour de la planète Terre, là. Déjà, ouais,
ça sera déjà pas mal, hein.
Ça sera déjà pas mal, ça.
Les autres sorties.
Miss Sloane, qui est un drame réalisé par l'oscarisé John Madden, à qui l'on doit Shakespeare in Love ou Indian Palace, et avec Jessica Chastain. L'histoire. Elizabeth Sloane est une lobbyiste impitoyable, réputée pour son talent hors pair, prête à tout pour gagner. Ses bras de fer avec les plus hautes instances du Congrès américain lèveront peu à peu le voile sur les véritables règles du jeu en vigueur à Washington. Rappelons que Jessica Chastain avait été nominée aux Oscars 2012 pour le meilleur second rôle dans La couleur des sentiments de Tate Taylor. D'après les critiques, Miss Sloane est un mélange réussi de House of Cards et Scandal. Stéphane, est-ce que tu regardes ce genre de série et de films ?
Scandal, non. House of Cards, oui, bien sûr. Bah, c'est très fun. Hein. Enfin, House of Cards, c'est vraiment le... Alors, j'étais moins passionné quand il est venu président de la République. Je ne sais plus du tout l'acteur. Enfin... qui est une PC, mais Jessica Chastain est une très grande actrice, je trouve, c'est vraiment une des meilleures actrices qu'il y a en ce moment, et bizarrement, lui donne des rôles, mais elle ne sort pas vraiment, enfin, elle n'est pas mise en avant, dans la couleur des sentiments, elle est vraiment exceptionnelle, je trouve, elle est vraiment très amusante, et c'est un très joli film, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous,
bien sûr.
Voilà. Mais voilà, donc je vais peut-être voir ce film-là, parce que j'adore cette actrice-là, et puis en plus, j'aime bien le sujet. Donc,
Tu es preneur ?
Je suis preneur, ça, oui.
Okay. Oh,
il y a un bon thriller dans politique aux États-Unis, c'est toujours intéressant.
Quoi. C'est toujours marrant.
Voilà.
Ensuite, on passe à La Confession de Nicolas Boukrieff avec Romain Duris et Marine Wacht, qu'on a pu voir dans le film Jeune et Jolie. Sous l'occupation allemande, dans une petite ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite l'intérêt de toutes les femmes. Barney, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l'église dans le but de défier cet abbé. Alors Stéphane, petite question indiscrète. Si tu étais un abbé, aurais-tu pu résister au charme de Marine Wacht, ou ce n'est pas du tout ton type de femme ?
Non, mais c'est une très belle femme. Hein. Je crois qu'elle est mariée, je crois. Voilà, donc déjà, je ne serais pas abbé, parce que oui, effectivement, étant catholique, mais laïque maintenant... Oui, je pourrais craquer, oui, effectivement, mais quel homme ne peut pas craquer sur elle ?
Et puis bon, Nicolas Boukrieff, ex-Starfix, attaque un sujet un peu différent de ce qu'il faisait avant.
Moi, j'aime bien son cinéma. Après ça, c'est vrai que j'attends vraiment qu'il refasse un film aussi fort que Les Convoyeurs, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, un vrai polar. Là, bon, ça, c'est pas mon style de film, par contre. Hein, mais,
tu vas aller le voir ou pas, là ?
Non.
Non, ok.
On fout un peu des abbés.
Film suivant.
Kong Skull Island, un film de Jordan Vogt Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson et Brie Larson. Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventure au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong. Malgré une énième adaptation du mythe de King Kong, est-ce que c'est un film que tu irais voir ?
Bien sûr, parce que c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment le, typiquement la grosse production américaine qui va envoyer du bois pendant 1h30 ou 1h45. Ça va être génial. Quoi.
On va kiffer. Quoi.
Bah, tu payes 10 euros, mais à la fin, tu as vraiment mis tes 10 euros dans un bon programme qui est vraiment amusant, qui plaît. Enfin, voilà, qui va être top.
De toute façon, c'est le genre de film que nous, fans, on adore. Quoi.
Oui, voilà, on a un beau Blu-ray qu'on regardera encore une fois par an pour se marier entre potes. Et, non, c'est le film parfait pour s'amuser pendant 1h30, quoi, c'est sûr.
Ensuite, Le secret de la chambre noire, un drame fantastique du cinéaste japonais Kiyoshi Kurosawa, à qui l'on doit la série des Shokuzai, Vers l'autre rive ou Tokyo Sonata. Avec Tahar Rahim, César du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur pour sa performance dans Le prophète d'Audiard. L'histoire, il s'agit de Stéphane, ancien photographe de mode, qui vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de pause devant l'objectif, toujours plus éprouvante, quand Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette emprise toxique. Stéphane, est-ce que tu aimes bien les histoires de fantômes ?
Hein, Stéphane ?
Oui, après ça, moi, le cinéma japonais, c'est vrai que je mélange un peu tous les réalisateurs et tout, donc j'ai du mal, mais après ça, toute la série des Ring... Versus tout ça, c'est un des meilleurs cinémas au monde, le cinéma japonais, surtout fantastique, d'action et tout ça. Celui-là est intéressant, donc oui, c'est, et puis sur le fantôme chinois, c'est toujours, le japonais, pardon, c'est toujours intéressant, oui.
C'est un univers qu'on adore.
Ah, mais c'est un très, en plus, ils sont quand même très forts, les japonais.
Et ma dernière sortie que j'ai sélectionnée, c'est Les fiancés en folie, une version restaurée de la comédie 2 et avec Buster Keaton. James apprend de la bouche d'un notaire qu'il est l'unique héritier d'une colossale fortune. L'héritage est cependant soumis à une condition impérative, il doit être marié avant son prochain anniversaire. Paniqué, le jeune homme doit désormais, en tout et pour tout, se marier en un jour. Stéphane, adepte ou pas de Buster Keaton ?
C'est notre premier souvenir de cinéma, Buster Keaton, avec le mécano de la Générale, je crois, c'est ça.
Ouais.
Et c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma quand j'avais 5 ou 10 ans à la télévision. Donc moi j'adore, c'est un génie, quoi, Buster Keaton.
On adore tous Buster Keaton, ça c'est clair.
Voilà pour les news.
Voilà, le box-office.
Le box-office en France, donc nous commençons par Alibi.com en tête avec 803 476 entrées. Il a donc cumulé en deux semaines 1 927 859, suivi de Split, production américaine, avec 594 427 entrées. En une semaine, c'est la première semaine de ce
Split
film.
Split est vraiment un grand film. Et je sais pas si Steph a été le voir ou il attend un petit peu peut-être.
Non, j'ai pas vu encore le film, mais c'est le film fait un carton en ce moment, j'ai l'impression.
Donc, oui, c'est ça, et c'est très proche de Silence des agneaux dans l'esprit, donc avec un très très grand acteur. Et voilà, on vous conseille tous d'y aller.
Ce qui est amusant, c'est que j'ai vu un film il n'y a pas trop longtemps, c'est le film Dédale de René Manzor, qui parle aussi un peu des. Qui est un film vraiment inconnu français qui est sorti il y a plus de 10 ans et qui parle aussi comme ça d'un tueur avec...
Plusieurs personnalités, voilà. C'est ça. Puisqu'il y en a 22, quoi.
Il y en a 24, celui-là.
Ah, celui-là, Split. Maintenant. Oui, il y en a un en plus qui apparaît, donc qui est assez destroy. Bon, on va pas révéler le film.
Voilà, c'est... il vient dans la fin du film, si ça se trouve, c'est sympa.
Ensuite, en troisième position, nous avons Red Dingue, la comédie française 2, et avec Danny Boone et Alice Paul, avec... Pour cette semaine, 548 562 entrées, donc qui cumule en 4 semaines 4 003 553 entrées. Suivi de Lion, le film américain, il me semble.
Tout à fait.
Qui a fait cette semaine 454 909 entrées. C'est sa première semaine avec Dev Patel, qu'on a vu dans Slumdog Millionnaire, et Nicole Kidman.
Voilà, vous allez. Moi, j'ai été le voir, vous allez pleurer à la fin, comme tous les gens dans la salle.
Tu spoil.
Oh, pas vraiment, c'est vraiment facile, hein. Puisque c'est une personne qui est dans un train et qui est perdue, complètement abandonnée, et qui va dans une famille américaine et qui veut retrouver sa famille originale à la fin. Donc, tout simplement. Famille. On peut deviner ce qui va se passer au niveau de l'émotion. Voilà.
Donc sortez vos mouchoirs.
Absolument.
Et ensuite, en cinquième position, nous avons Tous en scène avec 448 965 entrées. En cinquième semaine, il cumule 3 147 202 entrées. Stéphane, est-ce que tu as vu quelques-uns de ses films ?
Non. Non. Le seul film que j'ai vu dernièrement, c'était Logan. Je ne sais pas si tu l'as vu. Toi.
Ouais.
Non, Logan.
Non, c'est en fait, non, je ne l'ai pas encore vu. Mais bon, tout le monde dit que c'est très bien. C'est très bourrin, d'après ce que tu disais.
C'est très bourrin, voilà. Alors, c'est complètement con, mais c'est très bourrin. C'est,
mais est-ce que tu as pris ton pied, alors
Logan, c'est juste après Logan.
Est-ce que tu as pris ton pied pendant en voyant
le film? Ah oui, c'est clair. Non, mais c'est vraiment gore, en plus.
C'est ça le principal.
C'est interdit au moins de 12 ans, le film. Mais moi, j'étais un peu, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, on sort des films, nous, d'horreur moins violent que ça. Quoi. C'est très violent, il y a des têtes coupées, tout ça.
C'est sympa, ça.
Ah ouais, c'est très étonnant.
Ça hein. donne envie de le voir.
Et je suppose que c'est dans le box-office américain le premier. Quoi.
Ouais, il cartonne en plus. Hein, c'est ça.
Exactement, donc il est en tête du box-office américain avec 85 300 000 dollars de recettes. Puisqu'il faut savoir que le box-office américain se fait en recettes.
En monétaire.
Donc ça, tout ça pour la première semaine. Et donc il s'agit aussi du troisième film consacré au personnage de Wolverine des comics Marvel.
Voilà, et c'est le dernier.
C'est pas mal, ouais.
C'est le dernier film
de
l'acteur. Et il a dit une chose, c'est qu'il reviendrait dans le cinéma parce qu'il a le cancer. Il deviendrait dans le cinéma que s'il joue un super-héros dans les Avengers. Et ça se pourrait bien, puisque vous savez que le sujet des premiers Avengers, les prochains, c'est le film coupé en deux avec plus de 100 super-héros méchants et gentils. Donc certainement, il sera de la partie.
Je crois rien comprendre.
Ben, c'est Secret Wars, hein, tiré de la BD. Ouais, hein, ouais, ils n'arrêtent pas de se taper dessus depuis plusieurs années. Quoi.
Mais ils font que ça dans la série, ils se tapent dessus tout le temps.
Mais c'est ce qu'on leur demande aussi, non?
Ouais.
C'est des potes.
C'est des potes.
Non, moi, je suis plutôt DC Media, donc j'ai beaucoup Marvel.
Ouais, mais bon, les films DC Media sont un peu. Pas au niveau, on va
commencer.
Dire. On va pas commencer sur. Mais moi, j'adore
voilà.
DC Media, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est une grande discussion. Ça.
C'est une très longue discussion.
Pour une nouvelle émission, alors peut-être.
Peut-être, oui. J'ai beaucoup de choses à dire.
Là-dessus, oui. Pour le box-office?
En deuxième position, nous avons Get Out. Avec pour la deuxième semaine, la première semaine, pardon, cette semaine, nous avons fait 26 110 695 dollars. Enfin, ils ont fait, nous n'avons pas participé.
Pas encore, ça viendra.
Malheureusement, pas.
Mais c'est un film phénomène parce qu'il marche très très fort et. Alors que c'était pas prévu du tout au box-office. C'est
quoi, c'est exactement. Vrai. Alors, parce qu'en fait, il s'agit d'un couple mixte dont l'homme, en fait, va rencontrer la belle famille. Tout ne se passe pas forcément comme prévu. Ça pourrait être très intéressant, surtout si tu aimes bien les thrillers, les films.
Mais la bande-annonce est excellente.
Voilà. Et la bande-annonce, elle donne vraiment envie de rencontrer la belle famille.
75 millions, c'est énorme.
Voilà. En deux semaines, ils ont cumulé 75 954 335 dollars.
C'est beau.
Au dollar près. Ouais. En troisième position, nous avons The Shack, avec 16 100 000 dollars pour la première semaine. Et l'histoire, en fait, je la trouvais particulièrement intrigante parce qu'en fait, il s'agit de Mac, un homme en deuil, qui reçoit une invitation personnelle et mystérieuse pour aller à la rencontre de Dieu à un endroit appelé The Shack. Donc tout à l'heure, tu nous disais que tu étais laïque, de confession
Je suis athée, pardon, oui.
Athée?
Oui.
Donc, est-ce que c'est un film qui éventuellement pourrait t'intéresser, t'inspirer, t'appeler
Je sais pas trop.
C'est quoi, c'est Joker, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, Joker. Oui.
On passe donc à Lego Batman, le film, avec 11 650 000 dollars. Et en 4 semaines, il a cumulé 148 631 801 dollars.
Je dis que c'est très réussi, hein, mais bon, nous, on n'est pas trop Lego en général.
Non, c'est vrai.
Si c'était d'une autre époque.
Hein. C'est pas mal comme chiffre. Hein.
Et en cinquième position, Before I Fall, avec 4 948 538 dollars pour la première semaine. Et là, en fait, il s'agit d'une élève de terminale qui se rend compte qu'elle est peut-être en train de revivre sans cesse le dernier jour de sa vie jusqu'à ce qu'elle fasse les choses bien.
Mmh. Bon, ben, des beaux sujets, tout ça. Hein. Mmh. On attend impatient ce qu'ils arrivent en France. Hein. Ça mettra quelques semaines, voire quelques mois, ou peut-être jamais. Mmh. Voilà, tout simplement. Nous allons passer un morceau musical. Lucio Fulci is back. Mm-hmm. nous sommes de retour. C'est, quel est le titre qu'on vient d'écouter? C'est pas du Louchon Fou Louchon, mais ça va arriver, vous inquiétez pas.
C'est Qu'a vous fait à son orange de Delamano avec Fabio Testi, l'actrice qui jouait dans Le Massacre des Morts-Vivants. Et donc c'est la musique de Morricone qui est un. Donc le film est superbe et la musique est encore plus superbe.
Ah, de toute façon, Ennio Morricone is the best.
Oui, exactement.
Voilà, nous avons à l'antenne ton collègue.
Oui, Philippe, donc.
Philippe, est-ce que tu nous entends? Allô?
Oui, allô.
Oui, Philippe. Voilà, nous allons. Tu vas être en interview avec Steph pour parler D'accord. du chat qui fume. Comment ça s'est passé votre rencontre pour la création de la compagnie?
Alors, qui est-ce qui commence?
J'ai commencé parce que c'était assez amusant. En fin de compte, Philippe est un. On s'est rencontré au Bloody Weekend, donc est une très bonne petite convention qui se passe dans le Doubs
à côté de Sochaux.
À côté de Sochaux, effectivement, où se réunissent tous les fans de cinéma fantastique de France. Et c'est vraiment c'est très sympa. Enfin, c'est vraiment une belle ambiance avec pas mal de stars et tout ça. C'est très 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 sympa.
Voilà, on remercie Loïc pour ce festival.
Exactement, et donc on y sera d'ailleurs cette année avec le chat qui fume et Philippe.
Nous aussi, Ciné Forever sera là-bas aussi également.
Voilà, et en fin de compte, nous on revenait, le chat qui fume revenait un petit peu, parce qu'on nous avions arrêté pendant 3 ans, et on revenait un peu au business, et en fin de compte, Philippe était un acheteur. Et puis on s'est mis à fumer des clubs dehors, à discuter, à parler un peu de cinéma, et voilà, donc comme deux passionnés. Et puis en fin de compte, un jour je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais sortir Le Venin de la Peur, mais on n'a pas d'argent, patati patata. Et il m'a dit, écoute, moi je te prête l'argent. Voilà. Alors j'ai dit, ah bon, sans même te sucer, tout ça, donc, voilà. Et donc il a accepté. Et donc depuis.
Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte là? Dis-moi Philippe.
En partie.
C'est quoi, c'est romancé, c'est ça?
Oui, assez, parce que il y a eu quand même un droit de cuissage.
Mais ça, il t'en a pas parlé, Steph, ça.
Moi, j'ose tout.
Et non, alors dit,
oui.
Cette rencontre
alors, une rencontre amoureuse, on va dire, donc, mais du cinéma, évidemment. Donc, c'était assez marrant, parce que, on avait des atomes crochus, on l'a senti tout de suite, et puis. Qui nous a réunis, ouais, effectivement, c'était de parler de Lucio Fulci. Donc on n'avait pas seulement évoqué le Venin de la Peur, mais encore les deux autres gialli que vous connaissez de Lucio Fulci. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Donc évidemment, ça a commencé par l'aspect financier, comme Stéphane a dit, avec l'aide. Et puis après, ça a évolué.
Après, c'est parti, comme on dit. De toute façon, c'était une rencontre de fans, en fait, à la base.
Bah, ça, et en fin de compte, c'est très important, parce que c'est vrai que bosser seul, c'est sympa, mais c'est un peu fatigant. Et c'est vrai que bosser à deux, d'un coup, on peut vraiment, comme ça, discuter. On se téléphone souvent pour discuter des films, même des bonus et tout. Et c'est toujours important de pouvoir discuter un peu de tout. Voilà, comme ça, on a un avis aussi contraire.
Oui, et puis il y a un certain recul, peut-être, de sa part par rapport à toi. Quoi.
Exactement. Voilà.
Et alors, comment ça se passe maintenant entre vous deux? Qui décide quoi? Qui achète quoi? Qui dit quoi? Hein, Philippe?
Disons que c'est la concertation commune. Après.
Il doit y avoir quand même des problèmes, à mon avis, sur certains films, hein, peut-être, non? Vous n'êtes pas toujours d'accord?
Non. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de soucis, non. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais après. Je dirais que Stéphane est plus dans le business que moi, puisque j'ai un autre boulot à côté, donc qui me prend énormément de temps.
Voilà, et tu habites en Suisse, hein, il faut quand même le préciser.
Comment?
Non, tu habites dans quel endroit de...
Donc j'habite à côté de la Suisse, à côté de Genève.
Voilà, Genève, donc, et c'est quand même assez important que lui soit là, puisque c'est lui qui gère, je dirais, les affaires à Paris.
Oui,
Je suis là depuis le fait que
Stéphane soit retourné à Paris... ça aide aussi, puisque pour les contacts, pour beaucoup de choses, c'est peut-être plus simple stratégiquement. Après, nous, entre nous deux, évidemment, tout se fait par téléphone. Voilà, le fait que moi, je ne sois pas à Paris, ça complique aussi un petit peu les choses. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi me former sur d'autres aspects, je dirais, plus techniques, parce que la technique, c'est Stéphane qui l'a, c'est pas moi. Donc, après, moi, ce que je peux apporter, c'est ma connaissance, on va dire, cinématographique, voilà, je connais beaucoup de choses. Mais bon, après, des gens comme moi, il y en a plein, des passionnés.
Hein. Bon, on n'est pas si nombreux que ça, quand même. Hein. On se réunit au Bloody en général, mais on n'est pas quand même des millions de personnes, hein. Jusque quelques milliers.
Je pense non, on n'est pas des millions.
Non, mais surtout là. Après ça, il y a vraiment une discussion. On discute de tout. Je sais que même il y a des films que Philippe veut absolument un jour sortir et tout ça. Donc même moi, si je suis pas fan, on va pas passer les titres, bien sûr. Mais même moi, si je suis un peu moins fan, enfin j'aime bien, mais pas non plus. Voilà. Je sais qu'à un moment donné, on les cherchera. On va. Le but, c'est vraiment de faire plaisir.
C'est ça. Et alors, il y a eu des concessions alors quelquefois. Peut-être.
Ce sont pas des grosses concessions parce que de toute façon, on aime le cinéma de genre italien de toute façon. Donc.
Mais que des films italiens ou vous avez quand même des vues sur autre chose?
Non, mais on a des vues sur autre chose, évidemment. Bah, après, on sait très bien que le cinéma de genre italien, eh bien, ça fonctionne aussi. Après, c'est...
Il y a beaucoup de demandes, hein, de toute façon, hein, sur le cinéma.
Il y a de la demande, mais après c'est toujours pareil. C'est sur certains... comment dire? Sur certains genres du cinéma italien. On va dire que, par exemple, on pourrait pas sortir du peplum.
Parce que c'est sûr.
C'est devenu un peu trop.
C'est un peu. C'est pour les. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu has-been, quoi, quelque part.
C'est un peu has-been.
Même si on adore. Hein, moi, j'adore le peplum, mais évidemment.
Moi aussi, je
comme les westerns, les vieux westerns et tout, mais.
Voilà, mais après, on sait très bien que le peplum, eh ben, ça ne marcherait pas autant que le djali. Donc, il y a tout un aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect commercial, parce qu'on ne va pas. Non plus se mettre dans la mouise pour,
oui, et puis après,
pour sortir des films.
Oui, et puis après, le problème, si ça marche pas, vous pouvez pas sortir beaucoup de films après, c'est surtout ça le problème. Hein.
Ah, c'est ça, après on peut être bloqué, hein. C'est ce qui est le cas de tous les petits éditeurs. Donc nous, il faut un minimum que ça marche, ou au moins qu'on rentre dans nos frais, quoi. Voilà.
Il faut savoir si Philippe est un gros fan, enfin c'est vraiment un très. Enfin, quand je dis fin connaisseur, c'est que. Des années 50-60 du cinéma italien et tout ça, même 70, hein, bien sûr. Mais mes connaissances vraiment commencent à partir des années 70. Hein. J'avoue qu'avant, je suis un peu une buse, à part Mario Bava et tout ça, mais puis certains westerns. Mais lui, il connaît des acteurs qui me sortent des noms d'acteurs parfois dans des films. Je sais que c'est qui ce mec-là.
C'est qui
celui-là? C'est un second rôle, il le connaît la filmo par cœur, quoi. Donc, parfois,
je suis. Ah, vous avez des belles discussions, là.
Ah, oui, parfois, on a des grandes discussions, il me cite des noms et tout ça. Je fais, ouais, c'est qui cela?
D'où il sort?
Ouais, hein. C'est ça. Donc, il cite de films péplum, d'action, tout dans la jungle et tout ça, des années 60. Je suis, ok, d'accord. Alors, moi, je suis totalement largué, quoi.
Parce que là, en ce moment, vous cartonnez bien avec vos sorties, hein, et tout ce qui va arriver dans quelques temps. On en reparlera à la fin de l'émission, mais qui a choisi les films que vous allez sortir, les Mickey des Soavi? Opéra de Dario Argento et Fulci, etc.
En fin de compte, c'est souvent après ça, ça dépend. Soit c'est sur un catalogue et à ce moment-là, il faut sauter dessus vite fait pour acheter les droits. Soit effectivement, par exemple, Opéra, c'était très compliqué.
Pourquoi?
Parce que la boîte italienne qui gérait ça ne répondait pas à des petits éditeurs comme nous. Ils passent par des agents. Et puis on nous a dit à un moment donné que les opéras, les deux films de Soavi avaient étaient en train d'être achetés par une boîte. On ne savait pas qui c'était. Et en fin de compte, on est passé par notre agent qui nous a dit non, c'est bon, mais on ne sait pas trop. Et donc, ça a tenu.
Mais c'est compliqué en Italie. Hein.
C'est compliqué. Ça a tenu 6 mois. Et en fin de compte, au final, on a eu les 3. Donc, on est content.
Oui, et puis voilà. Vous avez le retour des morts vivants, quand même.
Le retour des morts vivants. Après, ça, c'est vraiment. Voilà, on voulait visiter un petit peu les années 80 aussi américaines. Et voilà, mais après ça, ça dépend après ça sur quoi on tourne. Moi, souvent, j'appelle Philippe, je lui dis tiens, il y a ce film-là qui traîne sur un catalogue, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on peut en faire tant de ventes et tout. Voilà,
c'est quand même un gros titre, ça. Retour des morts vivants.
Ah oui, Retour des morts vivants, c'est un gros titre. Mais parfois, il y a parfois des films qui passent pas. Je sais qu'il y a un film que j'aimerais bien moi sortir, c'est un polar italien. Philippe est un peu plus
hésitant,
donc pour l'instant, là, on le met de côté et tout ça. Donc, parce qu'effectivement, en termes de vente, on sait bien qu'on va on va rentrer dans nos frais, mais limite. Donc voilà, c'est bien pour ça que c'est bien de discuter à deux.
Ouais. Philippe, qu'est-ce que t'en penses alors? Allô, Philippe?
Oui, je pense exactement la même chose. Après, on aimerait sortir beaucoup de films comme d'autres éditeurs, mais après, on n'a pas les moyens de nos ambitions non plus. Hein. Voilà, on croit.
Mais est-ce que c'est difficile avec les autres éditeurs? Je pense qu'ils font la même chose que vous, ils essayent de trouver peut-être certains mêmes films, je dirais.
Ah oui, de toute façon, même à ce niveau-là, il y a une concurrence, hein, ça, c'est indéniable. Donc faut pas se leurrer. Hein. Et puis, des fois, ça peut aussi apporter des petites tensions, des petits conflits, ça, il faut pas le nier non plus. Mais voilà, ça reste un business, même si nous sommes, comme les autres, des passionnés. Voilà, c'est aussi hein, une affaire de pas dire de gros sous, c'est pas du tout le cas, puisque on gagne très très peu d'argent, puisque c'est avant tout par passion. Mais comme les autres ont aussi la même passion, donc ça peut engendrer des petits soucis.
Voilà. Et vous faites des réunions entre éditeurs, non?
Non, puisque quand on se voit, c'est sur des festivals, hein, où parfois peut-être ça peut être ailleurs, mais
comme comme le Bloody, quoi, en général.
Voilà, entre autres, oui.
Mais parfois, effectivement, il peut y avoir parfois des petites tensions. Ça arrivait il n'y a pas très longtemps sur des films avec Artus.
Pourquoi vous aviez les mêmes droits, c'est ça?
Non, en fin de compte, on nous vendait des films et Artus était dessus aussi. Alors, comme on savait qu'on ne pouvait pas les avoir, on a fait un peu monter les prix.
Ah, d'accord, ok.
Histoire qu'ils payent un peu plus cher.
La fameuse méthode pour faire monter les prix.
Voilà. Et nous, en fin de compte, on ne les a pas pris, on les a lâchés. Et puis, ils ont payé un peu plus cher que prévu.
Mais les droits en Italie, c'est compliqué pour avoir des bons masters.
Ça dépend des
compagnies.
Non, mais nous, on vérifie quand même tout le temps s'il y a un bon master au bout. Quand même. C'est vraiment la règle numéro un, parce que les Ritans, on les connaît. Et c'est un peu des gros margoulins. Ils nous refilent n'importe quoi sur une cassette audio limite. Il faut vraiment se méfier. Après ça, il y a des boîtes qui sont très connues pour avoir des masters vraiment nickel chrome.
Mais est-ce que vous renseignez avant d'acheter un film s'il y a une version française qui existe?
Toujours. On fait vraiment le tour, même des affiches, tout ça, des photos, on vérifie tout. On achète tout souvent en plus. On achète tous les autres DVD, on achète vraiment tout quasiment pour être sûr à 100% de ne pas se faire avoir.
D'accord. Philippe, alors, qu'est-ce que tu... Ça va?
Oui,
tu es tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, Steph?
Oui, sauf pour Artus, mais... Non, je plaisante, mais oui, c'est vrai qu'il peut y avoir ce genre de petits couacs.
C'est rare.
On a été contactés, nous, sans savoir que Artus était aussi sur le coup, quoi. On l'a appris après, quoi. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est un peu regrettable, mais bon...
Ça arrive de temps en temps.
C'est indéniable que ça puisse arriver, hein, puisqu'on tape dans les mêmes films.
Mais est-ce qu'ils ont des agents différents sur un même film? Il peut avoir des agents différents?
Normalement, non, mais ça... oui, celui-là, oui, effectivement.
Celui-là, donc il y avait deux agents différents.
Il y avait un anglais et un français.
Qui proposaient le titre, c'est ça?
Ça, c'était un peu bordélique et tout. Et puis aussi, parfois, ça se bagarre aussi... On accuse un autre éditeur d'avoir volé des films à l'autre et tout ça. Donc il y a des trucs qui passent sur Facebook et tout, c'est assez amusant. Bon, c'est des petites bagarres un peu à la con, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours rageant, je peux comprendre, quand on est fan et passionné, de voir un film qui passe devant nous. Par exemple, dernièrement, je sais qu'Artus va sortir les Full Sheila, donc, et tout ça, que moi j'adore, hein, personnellement. C'est vraiment mes films préférés. Bon, on savait qu'ils allaient sortir et tout, donc on n'a pas fait monter les prix là-dessus, mais... On est toujours un petit peu déçu quand ça sort chez l'autre, mais après ça, bon, on a préféré prendre d'autres films à la place.
Mais je trouve que les compagnies françaises, dont la vôtre, vraiment, vous faites un boulot formidable.
Bah, il n'y a que nous, je crois, non?
Ah oui, il n'y a que vous, c'est vrai. Mais parce que vous mettez beaucoup de suppléments, des fois deux heures, c'est quand même un sacré travail.
Bah, c'est ce qui vraiment prend le plus de temps. Excuse-moi, Philippe, ce qui prend le plus de temps, malheureusement, ce sont les bonus. Voilà, c'est ça qui, quand il y a entre 2 et 3 heures de bonus, même parfois à réaliser, à monter. C'est à sous-titrer, surtout aussi, c'est très compliqué. C'est ça qui prend le plus de temps et qui coûte le plus d'argent.
Ouais. Et vous voyez tous les deux quel supplément il pourrait avoir, c'est ça?
Bien sûr.
Et c'est pas assez difficile à trouver ou ça dépend des films, quoi, je suppose?
Ça dépend des films. On a un gars en Italie qui fait des bonus pour nous parfois quand c'est en Italie. Quand c'est la France, c'est nous qui nous en chargeons. Donc on va filmer les gars. Voilà, on a le matos pour ça. Et voilà, ça dépend des films.
Voilà, ok Philippe, merci beaucoup de ton appel. Nous allons passer, j'espère, la musique de Lucio Fulci.
Ciao Philippe.
Salut Philippe, merci beaucoup de nous avoir appelé et de nous avoir raconté un peu toutes ces anecdotes très constillantes sur Chaque Fume.
Mais c'est surtout Jean Marcin, parce que vraiment, il m'a fait confiance sur Chaque Fume dès le début quand même. Ouais. Et sur un coup, simplement rencontrant quelqu'un dans un festival autour d'une cigarette. Donc quand même, c'est là où on sent vraiment les passionnés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour vraiment voir leur rêve se réaliser. Ça, c'est beau, quoi.
Ouais, c'est magnifique même. Musique.
Ça se termine sur de très très beaux mots. C'est,
voilà. C'est tu es d'accord avec ça, Philippe hein.
Oui. D'ailleurs, je lui ferai un bisou quand je reverrai.
D'accord. Allez, salut Philippe, merci à toi.
Ok, merci.
Et
à tous.
Ciao.
Bye bye.
Bye bye. Ciao. Musique. En compagnie de Patrick, dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Alors, Stéphane, on va remonter au démarrage de la compagnie. Quelle année ?
2005, septembre 2005.
Allez, quels sont, qu'est-ce que tu as sorti en premier, alors ?
On a sorti donc Deadly Spawn. The Deadly Spawn, qui est un film d'horreur américain, qui est un petit film d'horreur américain des années 80, et qui est très, 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 très sympathique.
Voilà. Et donc tu étais seul hein, il faut que...
Non, j'étais pas seul à l'époque.
On était t'étais deux, avec une autre personne alors.
Avec une autre personne.
Et il y a eu quoi une séparation,
on
tout ça.
On n'était pas paxé, tout ça. Non. Non. En fin de compte, on s'embêtait. On était deux. On s'était rencontrés sur un forum de cinéma fantastique qui s'appelait Devil Dead. Et on discutait souvent ensemble de cinéma et tout ça. Chez lui, on discutait tout ça tout en. Non, rien. Je préfère zapper cette partie. Mais
tout en. Tout en fumant
des cigarettes. Tout en fumant des cigarettes.
Voilà.
Voilà, un jour, on était comme ça, on fumait des cigarettes, on s'est dit, tiens, si on crée une boîte de DVD, oh, bah oui, c'est cool. Voilà, on a trouvé le nom comme ça, donc le chat.
D'où vient ce nom?
Alors, c'est simple, on était donc on fumait des cigarettes, et donc devant un match de catch, je m'en souviens encore, le Royal Rumble 92, où Ric Flair a gagné. Et
spécialiste de catch, on dirait.
À l'époque, c'était un truc qu'on avait en commun. Et donc, on cherchait un nom et tout, et on pensait à un nom un peu plus professionnel, genre Raven Production, un truc comme ça, un peu très, très dark et tout ça. Et puis, mon pote a sorti Le chat qui fume, et j'ai fait OK, banco. Et c'est un film qui fait marrer les gens, enfin, c'est un titre qui fait marrer les gens, pardon, et donc même les impôts se marrent. Donc,
ça va alors.
Donc ça va, si les impôts ils se marrent, c'est le principal.
C'est déjà un bon point là.
Voilà. On l'a gardé.
Et qui a trouvé le logo? Qui a fait le logo? Comment ça s'est passé?
C'est mon pote qui avait créé le logo. Je crois que c'est repris d'une vieille affiche d'un film des années 30, avec je sais pas trop quoi, quel acteur dedans, il y a un chat et tout ça, il a repris un peu ça et tout. Voilà,
de toute façon, le chat est souvent dans les films fantastiques.
Voilà, c'est ça, bien sûr.
Tout simplement. Ensuite, alors?
Et ensuite, quoi?
Après 2005, qu'est-ce que vous avez sorti? En 2006?
Et bon, on a créé Deadly Spawn, on a sorti Punk Rock Holocaust, qui est un film d'horreur, un peu la trauma musicale, qui est vraiment. Bon, c'est pas un grand film non plus.
Mais un film sympathique.
C'est un film qui est plaisant, très gore, très musical, donc c'était un gros DVD. Après ça, effectivement, on a sorti plutôt des classiques comme Carnival of Souls.
Un gros classique, quand même.
Voilà, un gros classique qui a fait un bon carton. On a vendu quasiment, je crois, 3-4 000 ventes, on a fait.
Oh, c'est bien.
On a sorti aussi Hard, qui est un thriller, je ne sais pas si tu t'en souviens du film Hard. C'est un thriller, alors c'est marrant, c'était la petite histoire, c'est un thriller homosexuel.
Ah, d'accord.
D'un flic homosexuel qui traque un tueur homosexuel, et c'est vraiment un film qui est psychologiquement qui est très dur, quoi. C'est vraiment, ça parle de, c'est un sujet qui est très très dur, et c'est marrant, c'est que nous sommes hétéros, donc tous les deux, hein, est-ce que tu peux penser, donc et donc toutes les boîtes gays parisiennes
l'ont acheté, c'est ça?
Non, l'avaient refusé.
Ah voilà. Comment ça se fait, ça?
À cause du sujet, le sujet était trop noir pour eux, leur public n'était pas prêt à ça et tout ça. Et nous, en fin de compte, on s'est dit OK, banco. Et le film est vraiment génial. C'est une perle noire, c'est Crumb Cruising de Friedkin, mais en plus trash. Il y a vraiment des scènes très dures.
Et tu l'avais découvert comment, ce film?
C'est un ami qui m'a présenté ça, un matin, on petit déjeuner ensemble et tout ça. Il m'a dit tiens, regarde ce film. Et puis je l'ai vu dans la foulée, et puis on l'a acheté. Et effectivement, on a vendu quasiment 5000, ça a été notre premier carton, donc ça a fait un carton, on a vendu, c'était même Mad Movies en a parlé, les Arocs et tout, et les gens ont suivi, quoi, donc c'était vraiment notre premier...
C'est le premier gros succès, en fait.
Ah oui, gros succès, 5000 ventes, c'est rare, hein, je veux dire, pour un film comme ça en plus, non, on était partout, on fait signe à la Virgin Megastore, c'était impressionnant, quoi, donc on est assez contents.
Ensuite,
effectivement, on est plus parti dans la Blaxploitation avec des films comme Emmett à Los Angeles, Le Parrain Noir de Harlem. On faisait la Blaxploitation, des films pour les Noirs réalisés par des Noirs. Et donc, avec des films un peu. Alors, Emmett à Los Angeles, c'est vraiment un film anarchiste. Hein, donc, c'est vraiment une émeute à Los Angeles et tout. Il veut tuer des flics.
Ça dégénère,
ils veulent tuer des flics et tout. C'est très, très sympa.
Des flics blancs, bien sûr.
qui sont bien sûr inévitablement racistes. Et c'est vraiment très bien. Le Parrain Noir de Harlem est un petit polar un peu plus rétro, un peu moins un peu plus simple. Et après ça nous avons sorti Forbidden Zone, qui est vraiment le film
qui est très connu.
Voilà, de Richard Elfman, le frère de Danny Elfman, qui a fait la musique des Simpsons et des Spartan's Wife. Et donc le film est très connu, connu vraiment des fans. Et
est-ce que ça aussi m'a marché?
Non.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Ça n'a pas bien marché. Voilà. C'était notre plus gros budget. On a acheté les droits 10 000 dollars à l'époque. Honnêtement, maintenant, on ne paye plus ça, à part pour certains titres. Et non, ça n'a pas bien marché. Par contre, nous avons eu des très bonnes critiques à propos du film, mais les fans n'ont pas suivi, malheureusement. Quoi.
Voilà. Et tu as réussi peut-être à le vendre plus tard, non? Ou...
Non, il continue de se vendre, de toute façon. Donc, de toute façon, on est rentable, on sait très bien, mais... Après ça, on voulait toujours changer de genre. Voilà, on est passé un peu du film d'horreur américain au film gay, au classique, la Blaxploitation, au film musical. Donc notre but, c'était un peu de...
Diversifier en fait le catalogue, hein, tout simplement.
Toujours, voilà.
Alors avant de revenir sur Le chat qui fume, Lucio Fulci is back. We'll be right back. Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, Mi-Kwan, tu viens de dire quels sont les deux titres qu'on a enchaînés de tirés de l'œuvre de Lucio Fulci.
Nous venons d'écouter The Beyond et Zombie Doué.
Des films préférés de Steph?
Oui, c'est vraiment c'est vraiment deux chefs-d'œuvre, quoi. C'est vraiment deux chefs-d'œuvre absolus de l'horreur italienne, quoi. C'est glauque, c'est froid, c'est lent, les films sont très lents et puis les effets spéciaux de Gennaro De Rossi sont juste monstrueux, quoi. Donc non, c'est deux chefs-d'œuvre. Et la musique de Frizzi est juste énorme, quoi. Donc
voilà. Alors, est-ce que cette influence, tout ce que tu aimes sur les choix de tes films dans ta compagnie?
Ah bah inévitablement. Nous, on voulait faire depuis des années des films italiens, mais ça coûtait très 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 cher. À l'époque du DVD, quand ça marchait encore, quand Neo était dans les films italiens et tout ça, nous on voulait aussi en sortir à l'époque, parce que moi c'est plutôt ma passion, et le cinéma italien comme celle de Philippe, mais ça coûtait très cher pour nous, donc c'était trop cher, et puis le CNC ne donnait pas d'aide à l'époque. Et puis bon, petit à petit, les prix ont baissé.
Et c'est à partir de quand qu'ils ont commencé à donner des aides?
À partir du moment où on a arrêté de travailler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris notre pause de 3 ans, ils ont donné des aides à ce moment-là, donc on est un peu dégoûté.
Mais c'est quelle date, ça, hein?
C'était il y a donc environ 55.
D'accord.
Voilà, 55. Ils ont commencé à donner des aides. Le CNC a changé de personnes, et en fin de compte, de personnel, et enfin, les personnes qui s'occupaient de ça. Et donc là, maintenant, ce sont des jeunes femmes qui connaissent un peu le genre, qui connaissent le sujet. Et de toute façon, s'il n'y avait pas d'aide du DVD, il n'y aurait plus de DVD en France. Donc voilà, c'est simple. Hein. Donc ils aident même les petites compagnies. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut maintenant voir de plus en plus de films restaurés et tout ça, grâce au CNC.
Alors, au niveau des contenus, c'est au fur et à mesure, je suppose, de voir l'intérêt du film et les contenus possibles à voir, je dirais. Tu peux nous en parler un petit peu ou de tous les contenus, par exemple de certains films que tu as sortis, ensuite tout ce que tu nous as annoncé auparavant.
Des contenus
des contenus bonus, de certains films, ouais.
Que des tu bonus. As...
Ouais, par exemple sur les Richard Kern. Hein?
Il n'y a pas beaucoup de bonus sur les Richard Kern, hein, donc qu'est-ce que je veux... Non. En fin de compte, pour nous, ça a toujours été très important de mettre des bonus sur les DVD. On en a souvent mis et même depuis Dead Dispool, on avait blindé de bonus. Et donc on aime faire des bonus, on aime voir des bonus, même si la moitié des gens ne regardent pas les bonus. Et pour nous c'est très important, surtout dans un film italien, parce que maintenant les actrices et les acteurs disparaissent petit à petit. Donc c'est bien d'avoir une trace. Et donc pour Richard Kern, non, il y a simplement un bonus, c'est tout, sur un des DVD Extraction. On a interviewé l'une des filles qui posait pour lui. Mais c'était tout, quoi. Donc voilà, on essaie de trouver des bonus à chaque fois un peu pertinents. Un peu différent. Par exemple, sur les Blu-ray, nous mettons la cassette vidéo. On met le mode VHS, c'est-à-dire sur le Blu-ray, vous avez la cassette vidéo du film. Voilà, donc vous avez le DVD, le Blu-ray et la cassette vidéo.
Et des fois la musique, c'est ça?
Et des fois la musique, voilà. Donc,
ça dépend du coup, c'est ça?
Ça dépend du coup, voilà. Donc regarder une cassette vidéo sur un téléviseur maintenant, ça brûle les yeux, mais...
Il faut avoir le matériel, quand même.
Non, c'est-à-dire que t'as la version, on a capturé la version VHS pour la mettre sur le Blu-ray.
Sur le Blu-ray, oula.
Voilà, donc...
Ça va faire mal, ça, non?
Eh ben, c'est ça, parce que quand t'es vieille VHS toute pourrie, recadrée, dégueulasse et tout ça, et donc ça amuse les gens de voir ça, voilà, ça a amusé le CNC aussi, quoi. Mais comme ça, on voit au moins l'évolution un peu de la qualité d'image, ouais, entre la VHS
et puis le travail qui a été effectué pour arriver au résultat.
Voilà, bien sûr. Surtout en plus, que les VHS en France étaient censurés en plus, donc c'est intéressant à voir.
Toujours.
Voilà, donc c'est des petits bonus comme ça.
Les fans, ce qu'ils veulent, c'est des bonus. Hein.
Mais voilà, des bonus. On a retrouvé Anita Strindberg, l'actrice du Venin de la Peur, donc qui n'avait pas parlé depuis 30 ans. Donc on l'a retrouvée.
Mais elle se souvenait de tout?
Non, alors pas grand chose. Anita Strindberg, c'est assez marrant, c'est que bon, les gens, voilà, il faut qu'ils tapent Anita Strindberg sur Internet. C'est une très jolie femme dans les années 70, et elle n'avait pas parlé depuis 30 ans, et donc je retrouvais sa trace et tout, et elle habitait dans le sud de la France. Et donc je vais la voir, et puis je pensais vous voir une vieille dame, une vieille mamie et tout ça, elle avait 83, 87 ans, 83 ans, voilà. Et en fin de compte, c'est une des plus belles femmes au monde, quoi. Même à 80 ans, elle est juste, mais. Incroyablement belle, quoi, et pétillante et tout, sportive et tout ça. Et une fois, elle me disait, mais Stéphane, en ce moment, je voudrais bien trouver un homme dans ma vie et tout ça. Et je dis, mais Anita, c'est impossible de trouver un homme aussi pétillant que vous, à 83 ans, ils sont tous, voilà. Elle est incroyablement belle pour son âge, quoi. Donc là, voilà, c'est vraiment les styles de bonus, ça, qu'on aime faire, parce que voilà, de retrouver des gens, de retrouver des copies cachées, des bonus cachés, tout ça, c'est incroyable, quoi.
C'est ça qui fait l'intérêt d'une compagnie.
C'est pour ça qu'on continue, d'ailleurs. Sinon, honnêtement, si c'était simplement pour sortir des films, avec un bonus, voilà, que, ça c'est pas intéressant.
Et combien ça met de temps pour finaliser un titre ?
Quasiment 6 mois.
6 mois ? À part, au début avec l'achat, ensuite
De recevoir le master, le sous-titrage, les bonus à créer et tout.
La jaquette.
La jaquette et tout, c'est quasiment 6 mois. Opéra, on a acheté le film au mois de... d'octobre, il va sortir vers peut-être le mois de juin, on ne sait pas encore, donc oui, c'est quasiment 6 mois.
Hein. Il y aura beaucoup de choses sur le...
Oui, il y a beaucoup de choses.
Combien, à peu près 2 heures de
bonus. Non, il y en a plus de 3 heures de bonus.
3 heures de bonus.
3 heures de bonus, on attend.
En tout cas, elle est magnifique, la jaquette.
Oui, c'est vrai. Hein. Ouais,
bon, on a du beau boulot, quoi.
Non, mais on a toujours travaillé sur les jaquettes, on fait vraiment des beaux produits avec des belles jaquettes, c'est vraiment un peu vraiment ce qui est très important pour nous. Ouais.
Mm-hmm. Musique, Emma. Voilà, jusqu'au bout, on a voulu écouter cette très belle musique choisie par Stéphane.
Alors, pourquoi ce choix, Stéphane ?
Parce que c'est un film qui est magnifique, et ça s'appelle La Nuit des Diables, de Ferroni, et c'est un film qui est vraiment magnifique. C'était une très belle histoire d'amour tirée d'un roman de Tolstoï, alors l'autre Tolstoï, des années 1800 et quelques, je ne sais plus encore de quand date le roman, et qui raconte l'histoire d'un homme qui se perd dans la campagne italienne, enfin yougoslave de mémoire, pardon, enfin c'est tourné en Italie, et qui tombe sur une famille un peu de paysans, un peu cutéreux, et il tombe amoureux de la jeune fille qui est dans la famille. Et en fin de compte, on lui dit de ne pas sortir la nuit de la ferme, sinon il est attaqué par des Vordalak, qui sont des créatures un peu étranges et qui veulent sucer le sang des humains. Et donc c'est une très belle histoire d'amour, un peu très très triste, très monotone, très très déprimante. À la fin, vraiment, faut vraiment prendre son Prozac hein, pour vraiment voilà. Et la musique est très mélancolique. Il y a un petit peu de gore dedans, un tout petit peu de violence. Et on a sorti ce film-là donc l'année dernière en Blu-ray. Le film date de 72. Et c'est aussi un film que voulait Artus à l'époque, voilà, justement. Et donc, on leur a volé le film sous le nez. On a même signé un jour avant eux. Et
C'est chaud, là, entre vous, là.
Non. En fin de compte, on voulait le film, on voulait l'acheter. Ils nous ont dit, d'un coup, on se croise au mois de mars, on nous dit, oui, je leur parle du film. Ils me disent, on le veut aussi. Je fais, mais vous êtes gentils, quoi. Et donc, en fin de compte, on est allé à Cannes signer le film. Et Artus s'est pointé un jour après nous, malheureusement pour nous. Et donc, nous avons vendu les 1000 exemplaires en quasiment 4 mois ou 5 mois. C'est une édition qui est blindée de bonus aussi. Il y a Ghostina Belli dedans, qui est l'actrice principale du film, qui est incroyable. Et c'est un chef-d'œuvre, on n'en a plus du tout. Et c'est vraiment un des plus beaux films que j'ai vus du cinéma.
Il y a des titres chez vous, ils sont très cotés quand même. Au marché noir, comme on dit.
La Nuit des Diables, Le Terreur sur la Lagune, tout ce qui maintenant est totalement. Tout ce qui est parti en moins de 5 mois, effectivement, c'est coté. Oui.
Et à partir de quand vous avez attaqué les Blu-ray?
Depuis Le Venin de la Peur, il y a donc maintenant quasiment 2 ans.
Et vous avez, comme Le Venin de la Peur est un gros succès chez vous, vous l'avez réimprimé, c'est ça, si j'ai bien compris?
Le Venin de la Peur, c'est 3000 ventes, donc c'est quand même 30€, donc c'est quand même un très très gros succès.
Et vous avez fait un nouveau tirage, c'est ça?
On a fait, non, une seule fois.
Une seule fois, voilà.
On avait prévu 2000, on a fait 1000 de plus. Les 2000 sont partis quasiment en 2 mois, je crois, c'était énorme. Et donc on en a fait après c'est encore 1000 de plus ou 1200, je ne sais plus, 1500 de plus.
Il faut dire que c'est un sacré film de Lucio Fulci.
Oui, c'est ça. Voilà. Habituellement, maintenant, on fait des éditions à 1000 exemplaires, sauf effectivement les gros titres, comme Le Retour des Morts-Vivants, Opéra, La Longue Nuit des Exorcismes, qui sont vraiment des titres très connus. Donc là, on en fera beaucoup plus.
Et La Nuit des Morts-Vivants, combien d'exemplaires vous allez tirer?
Je ne sais pas, 2-3 000. Hein.
2-3 000, voilà, comme Opéra, c'est ça?
Comme Opéra. Ça dépendra après ça, comment on le sent, si on sent vite les choses. On fait des précommandes souvent, donc on sent si ça part bien. On connaît maintenant les chiffres par cœur et tout ça, donc on le sent. Quoi.
C'est-à-dire que quand vous faites vous proposez ce titre à certains magasins, vous voyez s'il y a beaucoup de demandes ou pas, c'est ça?
Non, mais on le sent sur Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand les gens partagent, quand les gens likent, comme on dit, et tout ça. Donc on voit s'il y a un engouement ou pas. On sait très bien qu'un film comme Traire sur la Lagune, La Nuit des Diables, comme Tropique du Cancer, À la Recherche du Plaisir, c'est des films qui peuvent se vendre à 1300, 1400 unités. Donc nous, on en fait presser 1000. Tout simplement, comme ça, au bout de 1000, c'est fini. Quoi. Donc, on peut en prendre un peu plus, mais on ne veut pas en faire presser 2000 pour ça qu'il nous en reste.
Est-ce que vous devez imprimer 1000 ou 2000, c'est ça, en gros?
Non, on peut aussi 1500, mais ça ne sert à rien. Donc, on préfère avoir un chiffre rond, comme ça, les gens sont
habitués. Ça revient pas trop cher, peut-être, d'imprimer 1000 au lieu de 2500?
C'est le même prix, ça.
C'est le même tarif?
Ça baisse à 2000, mais même pas avant. Donc,
d'accord.
Voilà, mais après ça, c'est un choix aussi, un côté collector, voilà, pour les fans. C'est dépêchez-vous, sinon...
Sinon, il n'y en aura plus.
Il n'y en aura plus, voilà.
Voilà, Emma, musique, maestro. Voilà, de retour avec Stéphane du Chat qui fume. Alors, fais-nous un peu un résumé sur les 60 titres. Quels sont les titres que tu proposerais à nos chers...
Tous.
Et, tous, bien sûr. Comme d'habitude, mais il y a un peu
non, mais il y a un peu de touche.
Et puis il y en a certains qui sont épuisés quand même aussi.
Ah, bien sûr, bah, les films comme Attaque à Manu, qui a été épuisé très rapidement, qui est un film de kung-fu tourné en Thaïlande, qui est vraiment juste génial. Et, voilà, après ça, c'est que nous, on aime mélanger les genres. Pour ça qu'on va quitter un peu le cinéma italien très légèrement en 2017 pour partir vers le cinéma français et italien.
Ah, français.
Français, ah, voilà.
Alors, c'est, bon, on va pas te demander c'est quoi, parce que c'est top secret.
On a dit sur Facebook, on en a annoncé pas un titre, mais au moins une petite indication pour un des... Voilà, comme ça, si les gens veulent écouter. On va sortir du Franco, normalement, cette année.
Ah oui, c'est vrai, Jess.
Voilà, Jésus Franco. Donc, bon, c'est français et espagnol, oui. Mais là, c'est le film français.
Mais tourné en France, quoi.
Tourné en France, produit par les Français, voilà. Et donc, ça sera des films un petit peu osés. Et voilà, on va partir un peu là-dedans. Puis un autre film français. Donc,
ah bah, c'est vraiment du français, là.
Que du français, donc un autre gros film français que les trentenaires doivent connaître.
D'accord. Tu ne diras rien, bien sûr. Même sous la torture ?
Ah, pas possible.
Ah bon, ouais, d'accord. Et quel autre film tu nous...
Non, mais à peu près, je dis non, pas tous, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des petits chefs-d'œuvre, comme tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de Hard, qui était vraiment un petit... vraiment un bon petit film et vraiment à voir, un bon thriller, enfin un bon thriller, un bon thriller. Après ça, non, je sais pas, bah, le Venin de la Peur, bien sûr, le Venin de la Peur, Dark Soul aussi, qui est un film dan pas danois, non, au-dessus de la,
suédois, c'est
d'un côté, norvégien.
Ah, norvégien.
Qui est un film fantastique norvégien, qui est un drame fantastique norvégien.
Comment tu l'as trouvé, ce film ?
Le réalisateur est français.
Ah, d'accord.
ils sont français. Et voilà, et donc c'est vraiment un petit film, un petit bijou, filmé en 16 mm avec une petite pellicule, enfin avec la pellicule, le grain de pellicule et tout. Donc c'est vraiment un vrai travail sur l'image. Il y a les films de Pallardy aussi, mais ça, bon, les films de Pallardy, c'est pour les plus pervers. Et donc il a sorti d'Amour chez les poids lourds, Derrière un train s'effleura trois fois.
D'accord.
Que des classiques.
il faut bien s'amuser, quoi, c'est ça.
Voilà, donc là, c'est des petits films érotiques qui sont années 70 qui sont amusants, quoi, voilà. C'était pour se marier un petit coup, quoi. Mais ça a bien marché, hein. Puis Jean-Marie Pallardy était tellement une légende qu'il faut un jour vraiment faire une émission sur lui. C'est un dieu.
Mais quand vous prévoyez les achats de films, c'est au fur et à mesure ou il y a déjà un programme
Non, il n'y a quasiment pas de programme. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on les achète, qu'on les trouve, Alors au début, on partait un peu n'importe où. Maintenant, on fait un peu plus gaffe. C'est vrai que maintenant, on ne sortirait plus du Pallardy. Maintenant, ça, c'est pas possible parce que bon, l'image du film, voilà. C'est voilà, quoi, parce que le CNC n'ouvrait pas.
Et que des titres en Blu-ray ou toujours?
Non, maintenant, effectivement, on passe vraiment quasiment qu'en Blu-ray, quoi. Voilà, c'est vraiment le Blu-ray, même si ça marche pas très bien le Blu-ray, mais pour nous c'est vraiment le médium, enfin le médium ultime, quoi, avec la meilleure qualité.
Au niveau de la qualité.
Bah, bien sûr, quand on voit Opéra en Blu-ray, Opéra se voit en Blu-ray, quoi, donc c'est inévitable. Donc voilà, pour nous c'est vraiment Blu-ray, combo DVD, avec Blu-ray, peut-être parfois aussi le CD de la musique, hein, ça dépend.
Ouais, si ça dépend du coup, en fait.
Ça dépend du coup, ça dépend aussi de si le film va marcher, ça dépend de beaucoup de choses, des droits du film et tout, donc ça dépend de... Voilà.
On va revenir deux secondes sur les deux musiques qu'on vient de passer. Pourquoi le choix de ces deux musiques?
Alors, c'était quoi la première? C'était,
c'était Polizia.
Bah oui, ça c'était donc la police des mains liées de Silvio Cipriani, qui est un très grand compositeur italien, qui a composé cette musique pour ce film-là et qui l'a réutilisé 15 milliards de fois après ça dans d'autres films. Et qui clôture aussi le film Boulevard de la Mort et Amer, le film français. Et Cipriani aussi a fait de la musique de Terreur sur la Lagune, qui est le film qu'on a sorti au mois d'octobre dernier. Donc c'est un grand compositeur. Et la deuxième, effectivement, est dans la recherche du plaisir, à MOOC, en anglais. Voilà, c'est une très belle musique, très lounge et tout, et qui apparaît d'ailleurs dans le film The Big Lebowski. Si les gens veulent revoir le film, elle apparaît dans ce film-là. Et c'est un petit classique aussi, un petit bijou qui est très peu connu comme compositeur et qui sera en CD avec notre prochaine édition Blu-ray et DVD.
Alors la programmation des prochains titres ?
Eh bien, Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon, qui est un classique du film américain des années 80.
Très grand classique et très,
voilà,
très connu.
Très connu, très fun, beaucoup d'humour noir, d'effets gore et tout ça. Et
non, la date ?
Septembre-octobre.
Septembre-octobre.
Il y a quasiment 3 heures de bonus hein, là-dedans. Donc,
et t'en es où là ?
Là, on en est qu'on a commencé à rassembler tous les éléments. On a tout acheté, on s'est bien ruiné là-dessus, mais voilà. La longue nuit de l'exorcisme, donc dans Lucio Fulci, donc ça c'est pour le mois de mai. C'est un, vraiment là par contre un chef-d'œuvre absolu, pareil, beaucoup de bonus dedans. Et donc il y a aussi donc la recherche de plaisir, donc avec le CD, le Blu-ray, le DVD. Et donc
opéra aussi. Alors.
Opéra, donc c'est pour septembre peut-être. Septembre, voilà.
Ah, c'est
peut-être.
Reculé,
on ne sait pas encore. Voilà, c'est en train, je peux pas. Voilà, il y a en ce moment il y a un petit problème avec un petit problème tout bête, mais on est en train d'essayer de résoudre ça. Pour le sortir avant, donc opéra, pareil, Blu-ray, DVD,
plein la copie bonus, est magnifique, la on l'a superbe, vu au festival,
ouais,
le PIF.
Copie superbe, ouais.
C'est la même copie, je suppose.
Même copie, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, après ça, il y aura donc les films de Michele Soavi, donc La Secte, et puis Sanctuaire, donc deux films totalement inédits en France, enfin, sauf un qui était en DVD pirate, mais totalement inédits en France.
Quelle date,
donc,
ça
ça, octobre, par là, parce qu'il y a beaucoup de bonus, il y a quasiment 2h30 de bonus par titre.
Ah oui, quand même.
Donc c'est, non,
c'est très attendu ça, les films.
Oui, c'est vraiment voilà, pour ça qu'on compte vraiment faire des gros bonus. C'est que le gros problème qu'il y a, c'est que souvent en Allemagne ou même en Angleterre, chez des films, des compagnies comme 88 films ou même en Allemagne, ils sortent les films, leur but c'est de sortir les films le plus rapidement possible.
Pour oui, d'accord, premiers, voilà. En bâclant les suppléments, c'est ça.
Il n'y a même pas parfois de suppléments, quoi. Ouais. Donc les Allemands parfois ils mettent même pas une bande-annonce, quoi. Donc ils sortent comme ça les films très rapidement, sous-titrés anglais, donc ils savent qu'ils peuvent le vendre à l'étranger, surtout en France. Et donc voilà, donc c'est bâclé, c'est un peu dommage. C'est que nous mettons beaucoup de bonus, donc malheureusement.
Ça prend du temps.
Voilà. Par exemple, pour la recherche de, à la recherche du plaisir, les Anglais l'ont sorti depuis quasiment un mois pour être les premiers. Alors que bah, voilà, nous sortons au mois de mai avec plein de bonus avec. Le bonus, les CD, tout ça. Donc,
ce qui attire les fans de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est des bonus.
Hein. Oui, mais voilà, mais bon, c'est un peu. C'est bête, quoi. C'est vraiment gâché, quoi.
Parce que les films, la plupart des gens les ont vus, quoi.
Bah, celui-là est totalement inédit en France. Donc en plus, c'est un film qui est très très rare, parce qu'il n'est jamais sorti vraiment dans le monde en version non censurée. Donc c'est vraiment une perle, quoi.
Vraiment une exclusivité.
Ah, mais c'est la première fois qu'on voit ce film-là, vraiment dans son format d'origine, depuis quasiment 40 ans. Donc, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Et alors, c'est pas trop difficile de travailler seul, des fois ?
Si. Non, ce qui est très difficile, c'est vraiment de vérifier les films. Voilà. Quand on fait un Blu-ray ou un DVD, donc, imaginons, pour le Venin de la Peur, il y avait trois pistes son. Donc, il y a anglais, français, italien. Et donc, on doit vérifier, bien sûr, les trois pistes son, donc avec les sous-titres, et pour le Blu-ray et pour le DVD. Donc, on doit voir le film six fois à la suite. Pour tout vérifier. Alors, quand vous voyez un film six fois à la suite, vous commencez à péter des plombs totalement, sans compter aussi les bonus qu'on doit vérifier à chaque fois. Les sous-titres. Non, c'est très compliqué parfois. Il y a vraiment des choses qui sont très compliquées. C'est un vrai boulot, parfois très, très brutal. Hein. C'est vraiment. Quand vous devez rendre des fichiers à une date imposée et que d'un coup l'ordinateur tombe en panne.
Oula.
Là, vous pétez des plombs, quoi.
Donc, comme tout le monde, hein, devant un ordinateur, ça ne marche pas.
Oui, mais non, mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très dur. Ouais, très, très, très dur ouais.
Surtout que tu es plutôt seul, hein, donc tu t'en prends qu'à toi, c'est ça, entre guillemets.
C'est un peu ça, voilà. Bon, on n'est pas vraiment. On bosse avec des gens qui font du boulot pour nous, donc d'ailleurs qui bossent bien, qui sont sous-payés, qu'on maltraite souvent, donc qui sont aussi des passionnés, donc ils bossent pour nous. Vraiment, ils font vraiment un boulot d'enfer depuis quasiment 10 ans. Et. Voilà, mais après ça prend du temps, vu qu'il y a plein de bonus, plein de choses. Non, c'est très compliqué.
Et ta collaboration avec David Idlo ?
Ah, c'était très sympa. David, c'est vraiment un fin connaisseur du cinéma italien, donc il connaît tout. Donc on est parti chez lui, on a pris la caméra, on a filmé, c'est bon. Enfin, c'est un prof, donc il sait parler, il sait comment présenter les choses. C'est clair, c'est net, sans bavure.
C'est précis.
C'est précis, voilà. Et puis comme en plus il s'y connaît, donc c'est vraiment en plus des très bonnes analyses, même sur les films d'Artus, hein, c'est toujours des très bonnes analyses. Donc non, c'est un plaisir de bosser avec lui.
Voilà. Merci d'être venu, Stéphane, merci pour parler du chat qui fume. Merci beaucoup, Mikwan, d'être la co-animatrice de l'émission. Et la fois prochaine, ça sera peut-être un peu plus facile à interviewer les gens, parce que c'est Karine Jean qui revient avec une partie de son équipe de théâtre qui fait des spectacles gore, olé-olé, drôle, en fait... pendant une heure. Tous les mois, elle fait un spectacle.
D'accord.
Donc, elle reviendra nous voir avec six spectacles déjà faits sur les 9 ou 10. Et ça sera du grand plaisir. Il y aura du monde. Et puis, Mikwan sera là pour interroger tous ces gens, puisque ton métier, c'est quand même actrice. Et tu pourras aller excellemment bien t'en dépêtrer avec eux. Voilà, la technique. Comment ça va, la technique ? Hein ? Ça va ? Pas de problème ? Ok, donc Emma et Super Abou sont toujours fidèles à l'émission. On vous embrasse très fort. Merci de nous écouter de plus en plus. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.
Ciao.
Ciao.
Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma.
Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Madagascar et Rotterdam. Toutes les îles sont représentées sur le média de l'océan Indien.